Valéry écrivait « Où est l'homme qui a exploré en esprit la nature abyssale ? Nous sommes tous poètes comme des enfants quand nous songeons au fond de la mer et nous nous y perdons avec délice. Nous nous créons à chaque pas imaginaire l'aventure et le théâtre. » Notre invité de ce soir dans la lorgnette se perd avec délice et poésie dans les abysses, les pierres fossilisées ou bien encore les déchets, et de ses réflexions et découvertes en crée des pièces de théâtre et des livres, des causeries comme il les appelle, des mots, des histoires pour créer des émotions et fonder de nouveaux récits pour réveiller notre émerveillement. À l'occasion de Génération Climat à Blois, quand l'art dialogue avec la science, c'est ce soir dans la lorgnette avec David Lal. David Val n'est pas tout seul ce soir et nous accueillons aussi Sandrine Huillet, responsable communication de la Allograin. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir Clémentine.
Merci d'être venue à Studio Zef pour cette émission. On est partenaire de la Allograin pour Génération Climat. Les années précédentes, on faisait des plateaux sur place. Cette année, on a changé un peu la formule. On accueille différents invités de la programmation dans des émissions, dans la chose commune, la lorgnette. Et ce soir, on est ravis de vous accueillir, David, pour nous parler de ce que vous proposez cette année à Génération Climat. Mais vous n'êtes pas un nouveau à Blois puisque vous venez très souvent à la Allograin.
J'ai cette chance, oui, de venir régulièrement à la Allograin et de revoir le public.
Sandrine, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Génération Climat, est-ce que tu peux représenter le festival ?
Bien sûr, Génération Climat, dont c'est la cinquième édition, est un festival, un temps fort, un lieu de vie où on regroupe sur une dizaine de jours des artistes, des étudiants, des publics. Il y a des expositions, des spectacles, des ciné-débats, des midis curieux, des conférences, des tables rondes. Il y a eu aussi des tables rondes dans les éditions précédentes. Et c'est réfléchir ensemble, chacun à l'endroit où on est, en partage évidemment, c'est pas l'un sans l'autre. Il y a toujours, hier soir après la première représentation de Nos cœurs en terre de David, il y avait un bord plateau pour que les gens puissent continuer, échanger, dire ce qu'ils avaient ressenti, poser des questions. À midi, le midi curieux, c'était aussi un temps d'échange. Et ce festival qu'on appelle festival artistique et sociétal a trouvé sa vitesse de croisière, est attendu maintenant. Et c'est aussi un endroit où les étudiants travail, et cette année in situ, puisqu'on a deux écoles de design qui sont en workshop toute la semaine dans les locaux de la Allograin. Donc ils exposent, mais en même temps ils travaillent ouvert au public. Et c'est aussi montrer tout ce que cette problématique, cette thématique du climat peut engendrer de réflexion, de chacun y amène sa touche, sa science, sa patte, et c'est absolument magique.
Hier soir, j'ai eu la chance de voir la pièce dont tu es l'auteur, David, Nos cœurs en terre. Tu la rejoues ce soir, c'est à 20h, c'est ça,
c'est
si ça. Je ne me trompe pas ?
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler ? D'où est née l'idée de cette pièce ?
Alors, Nos cœurs en terre, c'est une pièce, une performance aussi que j'interprète avec le performeur et plasticien Olivier de Sagazon, qui se sculpte dans l'argile et qui est mis en scène par Gaël Ozerman. Nos cœurs en terre, c'est une... tout d'abord, c'est né. C'est un spectacle qui a été une commande du Festival d'Avignon, qui m'a invité à créer une pièce performative à la condition, c'était dans le cadre des vifs de sujet, à la condition que j'invite un artiste pour partager le plateau avec moi et qu'il y ait une rencontre. Et profitant de cette invitation, eh bien, je me suis dit, oh là là, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec Olivier de Sagazon, dont j'avais vu la performance Transfiguration. Olivier, avec de l'argile et de la teinture dans Transfiguration, arrive avec ses matériaux fort simples et avec son art à se métamorphoser en permanence, à créer des formes, à rejouer une évolution poétique du vivant. Et ça m'avait absolument fasciné. Ce rapport entre cette vitalité extrême de sa sculpture à partir de cette matière minérale qu'est l'argile. Et je m'étais dit, j'aimerais vraiment faire quelque chose avec lui parce que je revenais à cette époque d'une expédition dont on parlera peut-être plus tard. Avec Yves Remer, on m'avait demandé de chroniquer une expédition, un journal de bord, une expédition, une mission scientifique d'exploration des abysses, des sources hydrothermales, qui est une aventure absolument passionnante. Voilà pour protéger, c'est un plaidoyer pour la protection des abysses contre l'exploitation minière, ce livre qui en est sorti, mais on m'avait raconté que ces sources hydrothermales à l'époque, eh bien, peut-être qu'elles étaient à l'origine des briques élémentaires ayant servi plus tard à fabriquer les éléments nécessaires à la vie. Et que donc la vie, la biologie, serait née de la matière minérale, de la matière inerte. Et que finalement, entre l'inerte, le minéral, et enfin, ce qu'on appelle l'inerte minérale, et le vivant biologique, la frontière n'était pas si étendue que ça, et que la Terre elle-même, par ses sources hydrothermales, serait à l'origine de la vie. Ça rejoignait un peu les intuitions mythiques hein, qu'on a tous. On sait que humain vient d'humus, Adam veut dire terre rouge en hébreu. On sait aussi dans la mythologie grecque qu'on prend aussi un peu de terre pour former les animaux et les êtres vivants. Donc je me suis dit, mais quel beau sujet de pouvoir explorer, avec un sculpteur, Olivier de Sagazan, de pouvoir explorer nos origines minérales. Et donc c'est une aventure, c'est une enquête, c'est une sculpture aussi, où Olivier et moi, voilà, on se livre à... je lui raconte des histoires, on développera peut-être un peu tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'on raconte des histoires, on est, lui est sculpteur, moi je suis écrivain, conteur, et au fur et à mesure, je deviens l'objet de sa sculpture. Et avec des kilos et des kilos d'argile, de pétales, de branches, on révèle la nature cachée de ce que nous, les êtres vivants et les êtres humains, nous sommes, c'est-à-dire de vraies filles et fils de la Terre.
Tu es à la fois conférencier, comédien, tu abordes des sujets variés, mais souvent voilà, de nature scientifique, sur un mode très poétique, comme on a pu le voir hier soir, et à la fois ludique. Et hier soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais la notion de conte qui me revenait à l'écoute, et aussi dans les ouvrages, la manière dont tu écris. Voilà, c'est très facile à se laisser porter. Et je me posais la question de, est-ce que les livres, parce que à chaque fois que tu sors un livre, il y a aussi une causerie théâtrale qui en ressort. Est-ce que c'est exactement le même texte? Et si c'est le cas, ou quasiment, voilà, je trouvais ça assez beau que pour deux arts différents, on réussisse à avoir la même matière au départ, mais que ça fonctionne dans les deux, à la fois pour un livre que pour une pièce.
Alors tu vois, Clémentine, les deux exemples dont tu parles, La vie profonde et Nos cœurs en terre, les textes finalement sont assez différents. Le texte de Nos cœurs en terre s'appelle Le sexe des pierres. Il ne s'appelle pas tout à fait comme la performance, parce que la performance est beaucoup plus courte. Il y a beaucoup moins de textes que dans le livre, mais effectivement, ils ont été conçus ensemble. Parce que moi, je travaille beaucoup à l'oral. Donc, j'aime bien que les contes... Je suis un peu un conteur. Je m'inspire beaucoup des griots ou des rhapsodes grecs. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment la parole, elle soit déjà très bien construite, mais qu'elle ait aussi cette espèce d'épopée du verbe ou du conte, qu'elle nous fasse rêver, qu'elle nous fasse frémir, qu'elle nous étonne, qu'elle nous fasse rire. J'aime bien aussi qu'il y ait beaucoup d'humour dans ces choses-là. Et La vie profonde, là, j'ai d'abord écrit le journal, et ensuite, il y a eu une adaptation théâtrale qui a été faite. Parce que là, le journal de La vie profonde, de l'expédition dans les abysses, est très très long, bien plus long que la pièce qui en a été tirée. Donc c'est très lié, ça dépend, mais effectivement il y a une interface littéraire. D'abord je suis écrivain avant tout, donc moi ce que j'aime c'est raconter des histoires, comme j'adore qu'on m'en raconte. C'est capital pour moi ce rapport entre les êtres humains, de raconter des histoires. Tout est dans ce lien, et ensuite voilà, ensuite on trouve une incarnation scénique appropriée.
Sandrine, est-ce que cette forme de seule en scène, même si ça l'est pas forcément, mais de récit long sur du scientifique, est-ce que dans le théâtre de 2026 et 2025, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup ou qui reste encore quand même assez marginal?
Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les programmations à Blois, qui sont très ponctuelles et très ciblé, c'est-à-dire qu'on connaît le travail de David depuis 5-6 ans. Et c'est drôle ce que tu disais juste avant, parce que quand Frédéric, le directeur de la scène nationale, nous a présenté la programmation 25-26, il y a des spectacles, des fois, dont on ne connaît pas ni le titre, ni le metteur en scène, etc. Et spontanément, je lui dis « De quoi ça parle ?» Et il nous dit j'ai programmé quelqu'un que vous connaissez, l'équipe, David Val. Et spontanément, j'ai dit « Ah, il va nous raconter quoi cette fois-ci » Et en fait, c'est sorti naturellement. Et c'est trop drôle que tu dis ça, parce que c'est ça. Pour moi, David, c'est un conteur, spectacle, ouais. Mais c'est un conteur entre une performance. Et à chaque fois, il nous a raconté. Moi, j'ai le plaisir de l'accueillir pour la 5e ou 6e fois. Et y compris, on avait eu un jeune public, et ça s'appelait Histoire de fouille, qui avait été, j'avais trouvé ça exceptionnel. Et c'est sa marque de fabrique, pardon. Et je trouve que c'est bien que ce soit notre artiste qui nous raconte ça de cette façon-là. On en a un. on le garde, on le fait revenir, on est ravis de l'accueillir à nouveau. Et non, c'est très spécifique, c'est unique et c'est David Val.
Est-ce que David, tu accepterais de nous dire un passage soit de nos cœurs en terre ou sinon j'avais pensé à un passage dans la vie profonde que beaucoup aimé pour que les auditeurs et auditrices écoutent ta langue et ton phrase.
Très bien, avec plaisir. Je te laisse le choix de l'ouvrage.
Ok. Et ben, alors, il y a le passage des crevettes dans la vie profonde que j'ai beaucoup aimé.
C'est un de mes passages préférés aussi.
La vie des crevettes par David Val.
La vie des crevettes des profondeurs qui sont des crevettes qui vivent à 2 km en dessous de la surface de l'océan et qui sont assez dissemblables à celles que l'on pêche ou que l'on mange dans les restaurants. Alors que je visionnais les films captés par le ROV Victor, je me suis laissé hypnotiser par des centaines de crevettes grouillant sur les parois d'une cheminée hydrothermale. Celles-ci s'entassent par milliers à proximité des sources sulfurées pour s'en nourrir. L'espace est immense. Malgré cela, elles cherchent à en occuper le moins possible. Avec de la distance, leur colonie prend l'aspect d'un long ruban gris. C'est qu'elles se tiennent dans les courants qui garantissent leur survie. Quelques centimètres plus près des cheminées, le fluide brûlant les consumerait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quelques centimètres plus loin, leur nourriture ne serait plus assurée. Ces crevettes se tiennent donc là, en multitude, contraintes à la proximité d'une densité formidable, se servant de leurs membres pour se maintenir à leur place, la leur, pour toujours, n'ayant pour seul but que de rester dans ce mince sillage, à se nourrir de la source de vie. Alors, pris d'angoisse à la contemplation de cette existence carcérale, je demande à Mathilde Cana, qui regardait ces images avec moi, quelle est donc la vie de ces bêtes? Quel plaisir peuvent-elles avoir? Peut-être, répondit-elle, qu'elles sont tout simplement à leur place, qu'elles tiennent tout leur être dans l'ici et le maintenant, qu'elles sont là et qu'elles sont bien d'être là. Pour moi qui, à l'instar des autres humains, me persuade que je serai toujours mieux là où je ne suis pas et qui espère l'avenir tout en regrettant le passé, ah, c'est une sacrée claque que je reçois. Alors je repense à une scène dantesque du paradis, j'ai toujours la Divine Comédie avec moi, il n'y a pas de meilleur livre pour accompagner un voyage. C'est au chant 31. Parvenu à l'empirer, Dante voit un fleuve en forme de lumière, la gloire divine, dans lequel la multitude des âmes bienheureuses formant autour de lui les étages d'un colisée à la circonférence infinie s'absorbe pour l'éternité en béatitude. Ce royaume plein de joie et serein, composé d'anciens et de nouveaux âges, concentré regard et amour sur un point. Ô triple lumière, dont l'unique sillage scintillant à la vue les satisfait. Ces crevettes, bien avant nous, goûtent à la béatitude céleste. Elles viennent de m'enseigner la plus ineffable leçon de mystique au monde, des maîtres spirituels.
Merci beaucoup. Donc c'était un extrait de La vie profonde, qui est paru déjà il y a plusieurs années, qui est le journal de bord
De l'expédition, de cette expédition d'exploration des marines, et qui là est plus un récit de voyage qu'une pièce de théâtre proprement dit, effectivement.
Je voyais une conférence que tu as réalisée où tu disais que l'homme est un homo fabulator. Qu'est-ce que c'est?
Oui, ce qui nous sépare vraiment du reste du vivant, parce qu'on est très proche du reste du vivant sur énormément de choses, mais c'est que on se construit en racontant des histoires. C'est pour ça que je dis que l'homme est un homo fabulator. Les récits, on construit les sociétés dans lesquelles nous vivons. On en reparlera suite à la conférence qu'on donne demain à la halle au grain. Mais effectivement, nos mots ont un pouvoir magique. C'est la capacité de transformer et de créer la réalité dans laquelle nous vivons. D'ailleurs, on le voit en ce moment. Trump, pour dégager les réalités qu'il dérange, supprime des mots. On voit donc que plus il y a de mots, et d'ailleurs, on le voit aussi en anthropologie, plus les peuples humains, les civilisations humaines habitent dans des environnements difficiles. Je pense aux Inuits, au Kavaskar, aussi en Patagonie, qui est l'endroit la plus humide et la plus australe où les êtres humains peuvent vivre, en Amérique du Sud. Eh bien, les champs lexicaux sont extraordinaires. Développé. Plus nous avons de mots, plus nous sommes capables de nous unir à un territoire, d'y résister pour l'aimer et de nous y adapter, même quand les conditions y sont difficiles. Donc, raconter des histoires, trouver les mots, avoir le plus de mots possible, c'est pour l'être humain une capacité d'adaptation, même encore une capacité de survie. Et ces histoires-là, C'est un pouvoir magique. Nos mots sont vraiment un pouvoir magique. La société dans laquelle on vit, elle a été bâtie à partir d'un récit. On voit très bien combien aussi à notre époque, les récits publicitaires ou ce qu'on voit en ce moment en politique sont extrêmement performatifs pour parfois nous convaincre de ne pas changer de société. Et donc, et c'est pour ça que c'est très important que des festivals comme ceci existent, c'est quoi les récits alternatifs à ces histoires ? Parce qu'il est évident qu'il y a d'autres histoires à raconter. C'est pas la fin de l'histoire, c'est plus la fin d'un système. Donc si on veut une suite à l'histoire, si on veut inventer quelque chose, il faut qu'on le mette en récit. Et il n'y a pas que les artistes qui le font. Tous les êtres humains sont des homo fabulators. On raconte tous des histoires et ces histoires doivent essayer de nous toucher. Parce que les êtres humains sont des êtres, certes, rationnels, comme on dit. Le mathématicien Bertrand Russell disait « L'être humain, c'est être intelligent, mais déraisonnable. » Maintenant, on pourrait dire qu'il est presque irrationnel, mais quand même, gardons un peu de rationalité. Mais pour que l'être humain soit vraiment rationnel, il faut d'abord amollir le cœur. Et donc, il faut qu'on raconte des choses avec des affects, il faut qu'on donne envie de changer de monde, de changer de société, de bâtir un nouveau futur plus responsable, plus durable et plus respectueux des animaux et des autres êtres vivants avec qui nous cohabitons sur Terre, nous cohabitons sur la planète, nous n'habitons pas la planète. Ça, c'est très, très important. Et les mots ont le pouvoir. Vous savez, quand on vous dit quelque chose et qu'on touche juste, ça vous change. Et c'est pareil pour les histoires, c'est ça. Donc, il faut qu'on se mette tous à raconter des histoires pour que ça nous change. On ne sait pas quelle est la recette miracle, le mot magique, mais c'est qu'à un moment, vous rencontrez quelqu'un, vous lisez un livre, vous voyez une œuvre, vous allez au cinéma et il y a une révélation, votre vie change. Et il ne faut pas se priver de ça. Et c'est pour ça que, même si parfois on le fait en vain, il faut toujours et toujours raconter des histoires.
Et quand on s'intéresse à la science, qui, avec un langage scientifique qui parfois est déroutant, où on n'a pas les codes, et quand on veut le retranscrire dans un livre ou sur scène, parfois, est-ce qu'il y a des blocages et comment on s'adapte à ça ?
Eh ben, c'est tout mon travail. C'est justement de trouver l'analogie, de voir comment est-ce qu'un vocabulaire scientifique peut devenir un vocabulaire émotionnel ou affectif, comment est-ce qu'on peut raconter de la poésie avec de la science. Mais vous savez, on oppose vraiment la science et les affects et c'est un peu une construction artificielle, je pense. Bien sûr que la recherche scientifique ne regarde que les scientifiques, mais ce que nous livre la science, quand on sait vraiment le lire, quand on découvre que nous sommes des êtres composés de microbiotes, que nous sommes donc des symbiotes composés de plusieurs organismes, quand on découvre l'évolution et qu'on s'aperçoit que nous avons encore en nous des éléments du poisson que nos ancêtres ou du primate que nos ancêtres ont été et que nous sommes toujours. Quand on réalise, quand la science nous dit que l'océan est le régulateur du climat, que nous dépendons tous les uns des autres, on n'est pas plus que dans la science, on est déjà dans la poésie, on est déjà dans l'ontologie, on est déjà dans la philosophie, on est déjà dans la société. Quand on écrit un roman sur le féminisme, on ne dit pas « Ah, vous avez écrit un roman art et sociologie ». Et donc, on peut tout à fait écrire de la poésie avec de la science sans être forcément art et science. Simplement, c'est une façon de se rattacher à la réalité, d'en parler et d'y regarder. En ce moment, la science découvre des choses qui transforment notre manière d'être au monde. Et je crois pour le meilleur, parce que ce qu'on découvre en science, je ne parle pas des résultats catastrophiques qu'on découvre en ce moment, mais ce qu'on découvre sur notre rapport au vivant, sur ce que c'est que le vivant, sur la définition de la vie, là, cette expédition des abysses, elle permet de modéliser la vie extraterrestre parce qu'on a découvert des animaux où on pensait que les conditions n'étaient pas réunies pour le développement de la vie. Et en fait, on s'est aperçu que la vie pouvait se développer selon des conditions qu'on ignorait complètement et ça nous a ouvert une réflexion pour savoir s'il n'y avait pas de la vie sur les satellites liquides et glacés de Jupiter ou de Saturne. Donc ça, c'est la plus belle des histoires. Donc avec la science, on peut faire rêver et on doit faire rêver parce qu'on va devoir faire, même si en ce moment il y a beaucoup de résistance, avec le nouvel état du monde. Et si on ne veut pas s'éteindre, il va falloir qu'on parle de ce monde et qu'on apprenne à l'aimer et à le respecter.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce discours-là, le sien et d'autres artistes sur d'autres thématiques, c'est de le proposer aux curieux, à tous les curieux qui ont envie d'apprendre, de découvrir, mais d'une autre façon que par les livres, que par les médias, que par... Voilà. C'est le rôle des théâtres, je pense aujourd'hui qu'il est là aussi. Alors, nous, on a la chance d'être une structure pluridisciplinaire, donc mais il y a des tas de messages qui passent dans un spectacle de danse, dans un spectacle de cirque. Nous, on a accueilli un spectacle de cirque sur les femmes battues, etc. Le message, il est passé. Et on est voir du cirque. Et on a accueilli 2000 personnes en 4 jours. Et Notre rôle, il faut vraiment, même si en ce moment la culture est plutôt très très mal menée, il faut vraiment lutter et on lutte avec les artistes pour continuer à proposer ce type de spectacle et d'intervention, puisqu'il n'y a pas que les programmations de spectacle. Mais c'est toujours aller susciter la curiosité chez les spectateurs.
Et puis c'est des sujets, le théâtre c'est très important parce que c'est un des rares lieux de rencontre encore dans nos sociétés. Mmh. Et là les sujets dont on parle, c'est des sujets qui nous concernent tous et qui doivent ne pas être confisqués. Il faut pouvoir dialoguer et converser et débattre et échanger autour de ces sujets capitaux.
Mmh. Et Génération Climat, il a été pensé pour ça. Et il monte en puissance depuis 5 ans et on arrive à des rencontres entre les publics, les artistes, les étudiants qui ont un niveau et un intérêt capital.
Mmh. Tu parlais d'affect, David. Et on le sait bien, la science n'est que doute en fait finalement. On veut faire croire aujourd'hui que la science est des vérités inébranlables, mais elle n'est que doute. Et je trouve que voilà, la notion de doute et d'affect sont assez proches et liées.
Je dirais même qu'elle est avant tout affaire de questions. Et d'ailleurs, c'est ce qui reproche les chercheurs des écrivains. On écrit pour donner forme, on écrit des récits pour donner forme à nos questions. Pas forcément pour y apporter des réponses, mais pour déjà nous mettre sur le chemin de la recherche. Et effectivement, la science, cette notion de recherche, de questionnement, de doute, de remise en question, de remise en cause, d'exploration, parce qu'en fait là on parlait des abysses, mais les abysses c'est encore un monde, on n'y connaît absolument rien. Il y a des gens qui veulent les foutre en l'air pour aller faire des exploitations minières, mais c'est absurde de détruire quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est monstrueux. Et du coup oui, c'est très important de parler aux affects, parce que de toute façon c'est le fondement même de la recherche, et c'est ce qui nous rend tous un peu des Ulysses. On est tous dans nos odyssées, je veux dire, dès qu'on cherche on erre. Et ça, c'est merveilleux, c'est la belle aventure de la vie. Franchement, si tout est donné dès le départ, à quoi ça sert de vivre 30, 40, 50, 60, 70 ans sur cette planète ? C'est merveilleux d'avoir un but et de chercher, et de ne pas avoir la réponse surtout.
Tu parlais d'Ulysse, on va écouter Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles, et on se retrouve juste après.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with
et vous êtes bien dans la lorgnette sur Studio ZEF sur le 91.1 et le 91.7. Et nous sommes avec David Val et Sandrine Lullier pour parler de Génération Climat et puis de science et art pour changer notre regard sur le monde. On parlait jusque-là voilà, du lien entre art et science, même si on l'a bien vu et on l'a bien compris, cette dichotomie n'est pas vraiment très légitime et bonne à mettre en valeur. Est-ce que tu peux nous parler, David, de ce lien entre artistes et scientifiques et de son évolution dans l'histoire? En fait, avant, les artistes étaient bien souvent des scientifiques et les scientifiques étaient bien souvent des artistes. Les deux étaient liés. Et voilà, comment ça s'est peu à peu peut-être diversifié?
Alors, c'était pas tout à fait la même science à l'époque, hein. Mais c'est vrai que les présocratiques, par exemple, les philosophes étaient des physiciens. Mais des physiciens, c'est-à-dire physis, c'est la nature. Donc, effectivement, c'était aussi une époque où le savoir pouvait encore être global et ne nécessitait pas toutes les spécialisations. Et après, il y a eu cette spécialisation qui était nécessaire parce qu'il fallait aller plus précisément dans les choses. Plus on découvre de choses, plus il y a de données, plus faux. Mais il y a eu une séparation des domaines des savoirs, c'est vrai. Et du coup, c'est ça qui explique aussi qu'à notre époque, c'est si difficile de donner un sens au monde dans lequel nous vivons et à ce que nous sommes en train de vivre. Parce qu'en fait, tout est éclaté. Il y a les spécialités d'une part, les sciences humaines d'une part, les sciences dures d'autre part, l'art d'une part, etc. d'autre part. Et donc, effectivement, l'enjeu est de faire dialoguer, de recréer de la transversalité du souffle, du fluide entre ces différents domaines. Et les artistes sont bien placés pour faire ça, je dois dire. Moi, je ne suis pas scientifique. Je ne serai jamais scientifique. Je travaille avec des scientifiques, mais moi j'ai fait une classe préparatoire à l'école des chartes, ensuite de l'histoire, je suis latiniste et historien de formation, et j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, j'ai fait des études d'art dramatique aussi, en parallèle de mes études universitaires, et c'est vrai que même si je viens d'une famille de scientifiques, au départ j'étais pas scientifique, ça me fascinait. Petit, je voulais être paléontologue, j'ai toujours été fasciné par les fossiles et les dinosaures, mais j'avais pas vocation à être scientifique, et puis je dois dire que à part deux expériences dont j'aurai peut-être le temps de parler tout à l'heure, c'est venu avec une rencontre. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des metteurs en scène, des chorégraphes, puis après j'ai fondé ma propre compagnie, ma première causerie. Le traité de la boule de cristal n'était pas forcément sur l'environnement. Et le directeur du Quartz, la scène nationale de Brest à l'époque, m'a proposé une résidence d'un an et demi à Océanopolis en 2012 pour créer un spectacle et écrire un texte sur l'océan. Mais le sujet était très vaste. Et à cette occasion, j'ai pu vivre un an et demi en résidence à Océanopolis, centre de culture scientifique de Brest, dédié à l'océan, merveilleux centre national de culture scientifique, dont je suis auteur artiste associé depuis 2019. Mais ça, c'est venu bien après cette résidence et cette causerie. Et au Muséum d'histoire naturelle, c'était mes deux résidences à Paris. Et là, j'ai découvert un manchot qui s'appelle Dominique. C'est une grande histoire. C'est le sujet de la visite curieuse et secrète de la mer qu'on a donné à Blois il y a deux ans. Et un manchot qui se prend pour un homme, qui s'appelle Dominique, et que les visiteurs prennent pour un pingouin, parce qu'un manchot et un pingouin, c'est très différent. Et c'est le début de mon premier texte environnemental. C'est eu un choc. J'ai eu une révélation à la rencontre de ce manchot et ses scientifiques et sur notre rapport à la biodiversité, le rapport au dérèglement climatique. C'était en 2014 qu'on a créé ce spectacle. Et à l'époque, je me souviens, beaucoup de gens disaient « un spectacle sur les poissons, ça va intéresser qui ?» Et ce qui veut dire que quand même, en 12 ans, la situation a quand même bien changé. Donc ça, c'est aussi pour dire qu'il y a des choses bien qui se passent. Et surtout, j'ai vraiment eu un choc. J'ai eu une prise de conscience de ce qui se passait. Même si j'avais déjà été sensibilisé enfant parce que mes grands-parents vivaient sur une île et cette île, le village où on vivait, a été rasé pour faire un camping ultra luxe avec des commerces, des piscines et tout. Et mon grand-père a refusé devant de la maison. On a été entouré, puis tout a été saccagé. Les bois ont été tombés, l'estran a été vidé. Bon, on allait pêcher nos crevettes, nos crabes et tout. Et donc j'ai vu un paysage se bouleverser en trois ans et se vider de sa faune. Et ça a été vraiment un traumatisme d'adolescent, de jeunesse et d'adolescent. Donc j'avais quand même, écobiographiquement, comme on dit à la mode maintenant, c'est un mot, mais il y a des choses effectivement qui... c'est venu par la rencontre avec les scientifiques. Et à partir de là, j'ai bossé, j'ai voulu, pas tout, il y a eu l'histoire spirituelle dedans, mais enfin même, elle est scientifique. À partir de là, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde qui est en train de changer. Comment est-ce qu'on peut réenchanter le monde dans lequel on vit? Comment, c'est ce que je disais au début, comment est-ce qu'on peut retisser ce lien avec le biologique, l'inerte? Et à chaque fois que j'écrivais un texte, je n'avais pas la réponse. C'était lors de ma recherche documentaire, lors de mes rencontres, que j'attendais qu'une révélation arrive. Je mélange toujours les histoires, l'histoire des sciences, la philosophie, la science dure, l'histoire personnelle, dans l'homme-poisson, etc. Et je me disais, mais jusqu'à qu'une révélation arrive, il y a presque une quête spirituelle dans cette écriture. Et donc, partir de la vérité scientifique, de mettre les choses ensemble, et soudainement, il y a un sens qui arrive. Et c'est ça qui nous touche. Et quand je joue mes textes, quand je les donne à lire, ce qui m'intéresse le plus, c'est que le spectateur ou le lecteur, plus que le contenu que je lui donne, soit touché par cette révélation que je partage et l'étonnement qui a été le mien de découvrir ça. Donc la visite curieuse et secrète, c'est de découvrir que l'être humain, c'est un aquarium pensant, qu'on est beaucoup plus proche de la mer qu'on imagine, qu'elle ne nous fait pas face, qu'elle nous habite encore. Je le redéveloppe dans un autre spectacle. Nos cœurs en terre, c'est cette histoire incroyable de cette génération qui nous unit avec les pierres, avec la terre qui nous a, d'une certaine manière, conçus. Vous voyez, j'emploie un vocabulaire poétique qui n'est pas scientifique, mais on voit bien aussi. Donc, à chaque fois, comment est-ce que la science devient matière à compte véritable ? Parce que tout ce que je raconte est vérifié par les scientifiques. En tout cas, sur les faits, après les conclusions que j'en donne, ça, elle regarde l'écrivain.
Hier, dans le spectacle, tu parlais des fossiles. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Lucie pour la chanson. Et tu expliquais que les fossiles, à l'époque, à la préhistoire, les hommes et femmes préhistoriques, les collectionnaient. Ils n'avaient pas d'utilité pure et dure. Et donc, j'ai pensé aussi aux dessins sur les roches. On peut se demander, est-ce que c'était une forme de recensement un peu naturaliste, ou bien est-ce que c'était un dessin avec plus d'affect et un dessin artistique, ou est-ce que c'est bête de se poser la question
C'est extrêmement intéressant de se poser la question, d'autant plus que cette question elle est capitale dans l'histoire des sciences préhistoriques. C'est Leroy Gourhan qui parle de ces fossiles qui sont des sémiophores et qui sont très différents des peintures que les hommes pouvaient faire, puisque les peintures sont des œuvres d'art créées par les humains. Et les fossiles, c'est un mystère de la nature, c'est un mirabilia, comme on disait à la Renaissance dans les cabinets de curiosité. Comment une pierre peut-elle avoir la forme d'un animal, ou d'un os, ou d'un monstre, ou d'un dragon, pour les dinosaures qu'on découvrait à l'époque? Et donc ces objets étaient ce qu'on appelle sémiophores, c'est-à-dire porteurs de signification, et donc d'étonnement, c'est-à-dire qu'on trouvait ça et ça faisait rêver. Et c'est pour ça qu'on dit que les préhistoriens disent que les fossiles, effectivement, dans les sites des préhistoriques, il y a plein d'objets très utilitaires, des outils, et puis il y a ces fossiles. Et on dit que c'est nos premiers musées, c'est le témoignage d'un étonnement. Qu'est-ce qu'on pouvait lire en ces objets si étranges, semblant hésiter entre deux natures? Comme je dis dans le texte, est-ce que c'était un caillou? Est-ce que c'était une vie? Est-ce que c'était un animal en chair de pierre? On ne savait pas du tout ce que c'était. Et ça a continué très longtemps jusqu'à la découverte des dinosaures. Puisque pendant très longtemps, on a découvert des squelettes de mosasaures, de diplodocus, de tyrannosaures, des ammonites. Et on disait, c'est les monstres d'avant le déluge. C'est un dragon. C'est un géant qui vivait là. Donc en fait, les fossiles ont toujours fait rêver l'humanité, parce que l'explication, elle est très difficile, parce que la science, elle révèle toujours ce qui est caché. On ne peut pas deviner de nous-mêmes, de soi-même, qu'il y a des millions d'années vivaient des animaux qui n'avaient rien à voir avec nous. C'est un secret qui, alchimiquement, met très longtemps à se faire découvrir. Il faut pouvoir lire dans les couches de terre, géologiques, etc. Et tant qu'on n'a pas cette clé, eh bien on rêve. Et on dit des choses incroyables sur ces objets. Et bien souvent, et ça c'est un des mystères de la vie, le rêve n'est pas si éloigné de la découverte qu'on fait ensuite.
Pour l'émerveillement, Sandrine, toi qui côtoies les publics au quotidien, est-ce que c'est plus simple de faire émerveiller les adultes ou les enfants? On a parlé d'histoire de fouilles tout à l'heure, ce spectacle jeune public. Et voilà, est-ce que l'émerveillement est différent? Comment on fait germer cette perception selon les publics?
Je pense qu'à partir du moment où on est, je vais le redire, mais curieux. Je pense qu'on est ouvert, on est prêt à se laisser émerveiller par ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend. Et nous, on tient à maintenir une programmation jeune public, puisque c'est presque entre un quart et un tiers de notre programmation par saison qui s'adresse au jeune public de 3 à 15 ans, parce qu'on est très attaché à notre rôle de former le spectateur, et plus tout petit, on leur fait découvrir des spectacles différents de danse, de conte, d'histoire, de théâtre, de musique. Et plus on stimule leur éveil, leur curiosité, leur appétence. Et en fait, on se rend compte parce qu'il y a des enfants, des fois ils reviennent, ils ont 8-9 ans. Je leur dis, vous êtes déjà venu au théâtre? Ah mais oui, tu te souviens pas, on est venu voir ça, tout ça, tout ça. Et donc ça marche parce qu'ils sont contents de revenir alors qu'ils viennent pas voir du tout la même chose. Mais ils sont en attente de prendre un émerveillement quel qu'il soit. Et on le voit parce qu'à la sortie, ils discutent, ils échangent entre eux. Et là, les enseignants nous disent... Alors ce matin, ils ne s'adressaient pas la parole dans la cour, c'était chacun pour soi. Et là, tout de suite, ça a déclenché quelque chose. Et alors, plus chez les adultes que chez les enfants, non, je pense que c'est pareil parce que quelque part, on est toujours des grands-enfants. Adultes, on vit dans une société où on a besoin de cet émerveillement. Donc non, je pense qu'à chaque âge, l'émerveillement peut être le même.
David, tu l'évoquais tout à l'heure, la difficulté parfois des récits et des idéologies et dans le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'au théâtre, à la scène nationale, quand on fait de la médiation culturelle, on est face aussi parfois à d'autres récits je pense par exemple sur le climat, le climato-scepticisme. Est-ce que c'est des choses que vous vivez, vous, en tant que porteur de spectacles?
Oui, la médiation culturelle... Nous, on s'attache vraiment à ce qu'elle soit en écho le plus proche avec la programmation. Donc effectivement, on part d'un artiste, d'une compagnie. Alors après, c'est un travail aussi du service des publics pour aller chercher l'information, échanger avec les artistes quand ils ne peuvent pas venir, faire de la médiation, c'est ça aussi. Mais on peut tout faire passer, je pense, via la médiation pour au final les amener au spectacle. Et entre un texte, des chiffres, tu disais, tout est vérifié. Donc ça a quelque chose de scientifique. C'est rendre ça réel, concret. Et oui, on y est confronté et on le défend et on le développe tout le temps.
David, on sent bien dans ton travail que, en tant qu'artiste, tu as besoin de la science. Est-ce que les scientifiques ont autant besoin de toi? Et dans les différentes explorations et les rencontres avec eux, comment tu as été accueilli?
Alors, c'est pas à moi de répondre si les scientifiques ont besoin de moi. Il se trouve que je travaille maintenant beaucoup avec les scientifiques. On travaille bien sûr avec, je suis auteur associé d'Océanopolis, c'est des coproducteurs même des spectacles. Théâtre. On a créé des transversalités entre les scientifiques et les théâtres. On fait de la médiation ensemble, on fait des créations ensemble, on travaille ensemble. C'est aussi un centre de ressources. Donc, les scientifiques, je travaille avec Océanopolis, avec les scientifiques du Palais de la Porte Dorée, avec, du Muséum d'Histoire Naturelle, avec Ifremer, beaucoup aussi, et d'autres. Et c'est vrai que de plus en plus il y a une prise de conscience des scientifiques parce que il y a quelque chose, on se rend bien compte qu'on a alerté le public, ça c'est sûr, on l'a alerté, on est conscient de ce qui est en train de se passer et il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à dépasser, on n'arrive pas à créer un déclic. Donc voilà, la connaissance ou l'information n'est pas seule capable de déclic. Donc comment est-ce qu'on parle autrement du problème? Peut-être qu'on en a parler aussi en faisant trop peur et du coup les gens sont tétanisés. Donc comment est-ce que on arrive à remettre un peu de l'humain, parler autrement de ces problèmes et surtout en faire un phénomène culturel et pas que scientifique. La science est une partie de la culture, mais comment est-ce que effectivement ces problématiques-là deviennent culturelles? C'est-à-dire regarde l'existence de l'humain en son entier et en sa sociabilité et en sa société et civilisation. Et donc ça c'est effectivement de plus en plus de scientifiques. Moi je pars en mission avec des scientifiques. Je suis pas le seul. Il y a des dessinateurs, des peintres. Mais il est vrai que La Vie Profonde c'était la première fois que des scientifiques demandaient à un écrivain non scientifique de chroniquer une mission d'exploration des abysses. Donc c'est quelque chose qui se met en place de plus en plus, qui est une très bonne nouvelle, qui est une très bonne chose, à condition que les artistes respectent aussi le sérieux d'une recherche scientifique et d'une démarche scientifique et d'un contenu scientifique. C'est-à-dire que parler de ces sujets-là, ça demande aussi de sa part une humilité et un sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre non plus ses opinions forcément pour des réalités. Ça demande aussi une vraie conversation, prendre du temps de maturation. C'est un protocole qu'il faut mettre en place. Mmh. Et c'est peut-être là mais ça pour le spectateur ou le lecteur, ça sent pas l'huile parce qu'il voit la création à la fin, mais c'est ça qui demande du travail. C'est comment est-ce que on établit des rapports de confiance, comment est-ce qu'on commence à échanger, à travailler sur les choses en profondeur pour trouver les bonnes analogies.
Et c'est ça qui est chouette, c'est que là, pendant Génération Climat, on a une librairie éphémère où on vend la plupart des titres de David, mais pour toujours créer ce lien. Et je l'ai vu encore à midi parce que j'ai vendu La Vie Profonde et j'en ai vendu un et c'était trop drôle parce que la dame, elle était... Alors, elle a vu le spectacle hier soir et donc je lui précise bien, je lui dis, mais alors, hier soir, c'était le 16 épisode. Oui, mais non, je veux découvrir d'autres choses qu'il a écrites. Tu sentais que c'était... Ça a déclenché quelque chose et cet émerveillement dont tu parlais, je pense qu'il est là aussi. Elle a vu le spectacle hier soir, rien à voir. Mais du coup, ça a déclenché. Ah oui, il dit des choses alors qu'ont été vérifiées qui sont. Mais oui, mais il a raison. Et non, je veux lire celui-là. Et tu vois, c'était un petit moment, une petite perle à midi, parce que je trouvais ça vraiment révélateur.
Je suis toujours très touchée
de ce que ça déclenche.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas chercher aussi les récits oubliés, le sexe des pierres, Pierre Borel. Je pense que les 90% du public n'avaient jamais entendu parler de...
Bon, les 99% moi-même, j'en ai entendu parler que pendant mes recherches.
Voilà, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Chaque semaine dans La Lorgnette, on vous propose un film, un podcast, un livre à découvrir en lien avec la thématique du jour. Aujourd'hui, je vous propose une série sur France Culture, Un été en Antarctique, qui est sortie il y a plusieurs années déjà, mais tous les podcasts sont encore en ligne. C'est Nicolas Martin qui vous emmène sur l'Astrolabe à la rencontre d'ornithologues, glaciologues, menuisiers, mécaniciens, cuisiniers qui séjournent 9 mois durant sur le 6e continent. Et dans la torpeur estivale de l'hémisphère nord, c'est une invitation à passer un été en Antarctique, même si là on est encore en plein hiver. Donc c'est une série à découvrir sur France Culture en podcast. On va écouter un petit extrait.
Alors on va regarder. Ah, et bien écoute, ça c'est une belle surprise. C'est un oiseau dont je suis sûr qu'il a plus de 16 ans. C'est un oiseau qui a été bagué ici il y a 16 ans, grâce à son numéro de bague. L0616. Donc c'est bien ça, c'est bien un oiseau qui a été bagué il y a 16 ans par le laboratoire du CNRS de Chizé. Il est 21h45. Alors on regarde si c'est un reproducteur, en soufflant sur les plumes, sur son ventre. Il y a bien, elle est bien une plaque incubatrice. On va vérifier l'usure du plumage. Au niveau des grandes couvertures, elles sont légèrement frangées, légèrement usées. Donc on va le noter. 151 mm pour l'aile. 34,9 pour le tarse. Il y a bel et bien la présence de taches sur les palmures. Ce qui confirme son âge avancé. 41 grammes. Donc c'est le poids standard pour cette espèce. Et voilà, il n'y a plus qu'à relâcher.
Eh bien après moins d'une semaine, effectivement, j'ai pu me mettre en place en fait très rapidement. J'ai pu installer tout ce que je devais installer sur la colonie d'oiseaux que j'étudie, donc installer les filets, etc. Et j'ai pu faire déjà 2 belles séances de capture, une de à peu près 12 heures, l'autre de 16 heures de suite. Et j'ai eu la grande chance, grande surprise, de retrouver les oiseaux que j'avais bagués les années précédentes. Et surtout, hier, le premier petit logger électronique que j'avais posé l'an dernier, qui va me permettre de tout savoir sur le déplacement de mon espèce fétiche, l'océan de Wilson, à travers les océans du globe. Donc ça donne la position de l'oiseau jour et nuit pendant toute une année. Et le cumul en fait de ces informations, à la fois sur cette espèce et sur d'autres espèces, nous permet de savoir si effectivement ces espèces changent de stratégie de dispersion en fonction du réchauffement climatique qu'on observe. C'est généralement, les oiseaux marins suivent les courants marins, des courants marins préférentiels, les zones de nourriture, et on regarde si effectivement tout ça, ça va changer, ça va affecter le comportement de ces oiseaux.
Bon, et la suite du coup des opérations pour vous ?
Ça va être du terrain à 100%, donc du coup je vais pas pouvoir profiter des soirées de la vie sociale de DDU, mais je suis là pour ça, donc je vais vivre dans la colonie d'oiseaux. Ma journée commence maintenant, donc il est 18h, et va se terminer quand le vent m'empêchera de travailler ou quand les oiseaux iront se coucher.
On voit les premiers gros morceaux de glaçons. Et au loin, la banquise toute disloquée, donc le pack de glace, quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. C'est, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'un autre iceberg. Mais c'est grandiose, quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont-Durville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Voilà pour cet extrait de cette série de France Culture, Un été en Antarctique. Et puis bah, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que voilà, vous avez des idées de choses à découvrir, à faire découvrir ?
Alors moi j'avais peur de, avec le temps, d'avoir oublié le titre, mais non, c'était bon. C'était un podcast que j'avais écouté sur Radio France qui s'appelle « Les bestioles sous l'océan ». Où en fait, de la plus petite, parce qu'il y a, un nombre inconsidéré, je crois qu'on est à plusieurs centaines, mais voire plusieurs milliers d'espèces de méduses, de races de méduses. C'est un animal qui m'intrigue. J'en ai peur dans la mer. Je vais beaucoup dans l'océan Atlantique. J'en ai un peu la trouille. Et en même temps, je vais très souvent à l'aquarium de La Rochelle parce que c'est vraiment l'endroit où il y en a qui sont très, très bien expliqués, exposés et tout. Et ça s'appelait, donc je n'ai pas dit de bêtises, les bestioles sous l'océan. Et en fait, de la méduse au requin, du poisson clown à la baleine, en fait, c'est tout... Toute l'histoire et comment ça vit ensemble. Et ce podcast, il est vraiment, il fait un bien fou et je vous le recommande. J'espère qu'il est toujours en ligne. Et c'est on part à la découverte de ces bestioles, mais de la plus petite à la plus grosse. Il y a toujours une espèce de comparaison dans le podcast entre une méduse, un requin, une baleine, un poisson clown, qui sont pas dans les mêmes océans. On est bien d'accord. Et ce podcast m'avait, ça fait au moins deux ou trois ans, je crois que je l'ai écouté et ça m'avait vraiment passionné. Donc je vous le recommande.
David.
Et moi, trois livres pour changer de support, pour diversifier les supports. Le premier, c'est, puisque les abysses, vous l'avez compris, me tient à cœur, il y a une scientifique grâce à qui je me suis retrouvé sur le bateau, José Sarrazin, qui a sorti l'année dernière chez Artaud le premier atlas des abysses. C'est un magnifique livre illustré sublimement et vous allez découvrir des créatures, des abysses qui vont vous les faire aimer. Parce que c'est important d'aimer ces créatures que personne ne voit et qu'on connaît peu. Et dont la survie est essentielle à la nôtre. Le deuxième livre, c'est Alberto Mangal, qui est un de mes auteurs préférés, son essai de la curiosité, parce que de la même manière que l'émerveillement, l'étonnement nous permet de vivre dans ce monde, la curiosité est aussi un affect extrêmement important. La curiosité, ça vient de cura, le soin, prendre soin. Pas la curiosité qui zappe, mais la curiosité qui nous permet de rentrer en relation, en contact avec quelqu'un. Et Alberto Mangal, dans son essai de la curiosité, offre l'exemple d'une divagation par amour de la curiosité, du soin des choses, que je trouve absolument formidable. Et pour une histoire d'aventure, pour nous redonner tous espoir, c'est le livre, là aussi, d'une amie, Capucine Trochet, une navigatrice exceptionnelle, qui a traversé l'Atlantique avec un tout petit bateau en toile de jute. C'est un bateau low-tech, c'est un tout petit voilier qui a 50 cm de la surface. Personne ne croyait en son aventure. On disait, mais jamais ce bateau ne va pouvoir traverser l'Atlantique. Et en plus, elle a une maladie des eaux, mais c'est une navigatrice hors pair. Et donc, elle est bien assise, donc elle pouvait le naviguer et elle a traversé les océans avec ce Taratari. Et ça s'appelle Taratari, mes ailes, ma liberté, Capucine Trochet. Et je pense que quand on lit un livre comme ça, on se dit que tout est possible, si on le veut.
Pour terminer cette émission, peut-être qu'on peut rappeler les rendez-vous qui restent pour te rencontrer, David. Alors, il y a ce soir, je ne sais pas s'il reste des places.
Oui, il reste des places.
Ok, à 20h, donc Nos Cœurs en Terre. Et puis, vendredi aussi, demain, on pourra te rencontrer pour une carte blanche.
des mots pour transformer le monde, ça a vraiment à voir avec ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que si on veut changer la société, peut-être qu'il faut, il faut raconter notre futur. Pourquoi est-ce que les récits peuvent transformer le monde? Et c'est d'autant plus important à notre époque, comme on le disait, où certains hommes politiques retirent des mots pour justement cacher la réalité.
Et en ce moment, tu portes une autre causerie qui s'appelle L'Homme-Poisson. Est-ce que je lance le teaser et
avec
tu nous
plaisir,
en parles après?
Avec grand plaisir.
À 7 ans, c'est le choc.
Et ouais, parce que moi, j'avais un rêve. Être pourvu de nageoires, de branchies apparues comme par magie qui me permettraient de pénétrer les profondeurs aquatiques. Pendant des jours, j'essaye de me métamorphoser en sirène. Et je passe ma vie dans ma baignoire. Et c'est même une addiction. Faut que je me trompe. Et si nous y plongions pour de vrai?
L'Homme-Poisson. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter dans L'Homme-Poisson?
Alors, c'est un spectacle. Le livre est sous-titré L'Homme-Poisson de l'existence des sirènes. C'est un spectacle qui est mis en scène par Thomas Cloarec, et avec une scénographie de Nadège Renard et une collaboration merveilleuse avec l'immense plasticien Jean-Marie Apriou qui fait. C'est une rêverie, c'est une enquête sur les sirènes. Ça part de. Quand je suis d'une scène de splash, un film des années 80. C'est aussi un hommage au film de monstres des années 80-90. Une scène de splash. C'est Daryl Hannah qui est une sirène amoureuse de Tom Hanks, elle le sauve deux fois de la noyade, et elle a un pouvoir magique très particulier, c'est sa queue de poisson, une fois sèche à l'air libre, se métamorphose en paire de jambes, c'est une sirène amphibie. Et ça lui permet de partir à la recherche de son amoureux et de s'installer avec lui, qui habite à New York. Mais elle n'ose pas trop lui dire que c'est une sirène, elle a peur que son petit ami ne prenne pas le fait qu'elle ait une queue, et donc elle vit comme ça, sous une fausse identité, puis cette queue de poisson lui manque, alors elle décide de prendre un bain. Et c'est là qu'il y a eu une scène d'anthologie. Moi, j'ai 7 ans. Elle se fait couler un bain. Elle met un paquet de sel dans l'eau. Et là, je ne sais pas si certains d'entre les auditeurs s'en souviennent, la queue de poisson, la paire de jambes se transforme en queue de poisson. Et moi, quand je suis gamin, qui rêve d'être un homme poisson, une sirène, je rêve d'aller dans l'eau. Comme ça, d'avoir des... Je vois cette scène, je me dis, oh là, c'est incroyable. C'est ça le secret de la métamorphose. Et je commence à mettre du sel dans mon bain, mais ça ne marche pas. Ensuite, je mets des coquillages, des crevettes, des algues. Je transforme ma baignoire en océan, mais mon corps lui refuse la transmutation. Et en fait, c'est le point de départ d'une merveilleuse histoire et vraie sur qu'est-ce qu'une sirène, est-ce qu'elles existent, est-ce que c'est un mythe, est-ce qu'il y a des sirènes à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui fait que nous, les êtres humains, nous sommes encore et toujours des animaux aquatiques. Et que la mer, une mer en mauvaise santé, c'est une humanité en très mauvaise santé. Et de fait, nous sommes des sirènes dans la mesure où nous descendons des poissons. Et puis, tout encore chez nous montre ça. Je vous l'ai dit, on est plein d'eau salée, 45 litres d'eau saumâtre baignent nos organes, on transpire, on pleure de l'eau salée. Certains disent que nos empreintes digitales sont formées par le ressac des eaux maternelles lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, et nous mangeons du sel pour rééquilibrer en sodium nos cellules conçues dans l'océan primordial. Mais ça va plus loin. Parce que de la même manière que les baleines descendent d'animaux terrestres qui sont retournés à l'eau, y a-t-il des êtres humains qui, eux aussi, se laissent à nouveau façonner par l'élément marin? Eh bien, le spectacle vous raconte cette histoire fascinante et très méconnue des sirènes. Et au fur et à mesure, c'est un peu comme dans tous mes spectacles, je change d'aspect et d'apparence. Je me métamorphose en un être aquatique, un hominidé marin dont Jean-Marie Apriou et moi avons rêvé la forme. À quoi ça ressemblerait un être humain qui retournerait à l'eau, à l'instar des ancêtres des baleines?
Et c'est intéressant parce que j'étais avec des amis hier soir et quelqu'un disait, ça a parlé des pierres, mais on n'a pas parlé de l'eau et de la mémoire de l'eau, par exemple. Donc c'est dans L'Homme-Poisson.
Voilà, un élément par spectacle me semble hautement suffisant.
Puisqu'on avait déjà parlé des déchets avec le sale discours.
Nucléaire, ouais.
Et le sale discours et le livre est à la bibliothèque de Blois pour information, pour ceux qui voudraient aller le lire. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Est-ce que Sandrine, tu veux rappeler peut-être des moments forts qui restent à venir?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, après nos cœurs en terre, on accueille Alerte Blaireau-Dégâts à voir en famille jusqu'à 15 ans, dimanche après-midi dans la halle. Et c'est vraiment un spectacle. Alors là, on est sur un YouTuber qui décide... qui vit à la campagne, qui veut sauver sa forêt à tout prix, et Il interroge sur, en fait là, les réseaux sociaux, ça a d'impact du bon, mais là, ça peut servir à monter une communauté, à faire bouger les choses, à s'exprimer, à s'adresser aux politiques et à tout mettre en œuvre avec les autres. On a toujours besoin des autres. Et de sa forêt, il arrive à se servir de ses réseaux sociaux pour sauver sa forêt. C'est un seul en scène encore où le public est en cercle autour. On a une proximité avec le comédien qui est de 2 mètres maximum. Et du coup, il nous embarque avec lui dans sa forêt sur un tout petit plateau. Et c'est absolument fabuleux. Il faut vraiment venir le voir dimanche à 16h à la Halle au Grain. Et puis, le hall d'expo de la Halle reste visitable tous les jours, tous les après-midi, tous les soirs, jusqu'au jeudi soir 22. Et on terminera le festival avec Étienne Saglio, qui est artiste de magie nouvelle et dont le dernier spectacle s'appelle Vers les métamorphoses et qui est programmé en partenariat avec l'Hectare à Vendôme.
Eh ben, un grand merci à tous les deux. Bon spectacle merci. Ce soir. On invite tout le monde à aller te voir, David, ce soir dans Nos Cœurs en Terre à 20h. Donc, il vous reste 2h03 pour prendre votre billet.
Mais il reste un peu de temps pour tout le reste. Et,
oui, bien
sûr. La rencontre avec David demain soir, comme la conférence avec Claire Pétraud mardi prochain.
La semaine prochaine.
Voilà, sont en entrée libre. C'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Venez écouter, découvrir, vous enrichir, vous cultiver, venez.
Eh bien, merci beaucoup. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio Zef la semaine prochaine. Et on vous souhaite un très bon week-end d'ici là. À bientôt, au revoir.
Au revoir.